particulière. Il dit ceci, donc je lis au chapitre 13 des Juges, verset 4, il dit ceci à la femme de Manoa: « À partir de maintenant, prends bien garde de ne boire ni vin, ni autre boisson alcoolisée, et de ne rien manger qui soit rituellement impur. Car tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils. Ce garçon sera consacré à Dieu dès le sein maternel. Jamais il ne devra se couper les cheveux ou la barbe. C'est lui qui commencera à délivrer Israël des Philistins. » Alors, les instructions de l'ange renvoient à une forme de consécration qui était pratiquée en Israël et qui s'appelait le naziréat. Les modalités du naziréat sont décrites dans la loi de Moïse, dans le nombre 6, donc le livre des nombres, chapitre 6 en particulier. On voit que le nazir ou le naziréen est une personne qui se consacre volontairement à Dieu pendant une certaine période de sa vie. Et pour marquer sa consécration, cette personne ne boit pas d'alcool, elle ne touche aucun corps mort et elle ne se coupe pas les cheveux ou la barbe. Alors, dans le cas de Samson, il y a quelques différences. Déjà, ce n'est pas une consécration volontaire, c'est une consécration qui lui est imposée dès sa naissance, et pas pour une période délimitée, mais c'est pour toute sa vie. Samson ne doit pas boire d'alcool, il ne doit pas se couper les cheveux. On ne sait pas très bien dans notre récit s'il lui est interdit d'entrer en contact avec des cadavres. Peut-être que l'interdiction est implicite dans notre texte, mais en tout cas, elle ne figure pas de manière claire. Alors, Dieu a appelé Samson à son service pour faire de lui le libérateur de son peuple. Et à la fin du chapitre 13, on lit que Dieu a béni Samson et que l'Esprit Saint agit en lui. Samson est donc choisi, il est guidé, il est fortifié par l'Esprit Saint. Voilà un libérateur miraculeux dans lequel on peut avoir de grandes espérances. Et à la fin du chapitre 13, on lit que Samson est justement à Maranédan, qu'il va à Timna, et ce sont des villes qui sont tombées sous la domination des Philistins. Alors on se demande, est-ce que Samson n'est pas bien parti pour reconquérir ces villes selon la mission de délivrance qui lui a été confiée? Mais au lieu d'une mission de reconnaissance en territoire ennemi, Samson a visiblement la tête à autre chose. Le texte nous dit qu'il descendit à Timna et qu'il vit là une femme philistine. Il descend et il voit. Descendre et voir, ce sont deux verbes clés en fait dans toute l'histoire de Samson. Alors, si vous lisez la Bible dans une version un peu littérale, eh bien, on retrouve ces verbes qui vont marquer le récit et qui illustrent que Samson suit son propre chemin. Il s'affranchit de l'autorité de ses parents, et surtout de l'autorité de Dieu. Samson descend. En effet, le verbe donc est employé 6 fois, par exemple, au chapitre 14, verset 5. Samson descendit à Timna. Quelques versets plus loin, verset 7, il descendit, il alla faire sa déclaration à la femme qui lui plut beaucoup. Puis au verset 1 du chapitre 16, il descend à Gaza. D'un point de vue géographique, ça a du sens. Tsoréa, le village de Samson, est situé en hauteur. Donc à chaque fois qu'il se rend quelque part, eh bien, il doit descendre dans la vallée. Mais il est difficile de ne pas y voir un sens figuré. Samson suit ses penchants et il descend spirituellement de là où Dieu l'avait placé, de là où Dieu l'avait béni et appelé. Samson descend dans la compromission avec les Philistins, pas une fois, pas deux fois, mais de nombreuses fois, et un jour, il n'en remontera plus. Et puis Samson voit, c'est un autre thème du récit. Samson voit la femme philistine, on vient de le lire au début du chapitre 14. Le père de Samson va protester, mais Samson lui dit que cette femme est celle qui convient à ses yeux. Elle plaît à ses yeux, c'est dit une deuxième fois. Et puis vous connaissez cet épisode avec le lion mort, le lion que Samson a tué, eh bien Samson retourne le voir. Et puis plus loin, il verra une prostituée à Gaza. Et puis à la fin, il perdra ses yeux. Samson voit et il agit en conséquence. Samson suit les désirs de ses yeux et à chaque fois, ça le conduit plus loin de Dieu. Il était censé délivrer Israël des Philistins, mais non, il voit cette première femme et il décide de lier sa vie à celle de la Philistine. Il voit le lion mort, il voit le miel, il en mange et il en donne à ses parents. On ne sait pas si en tant qu'homme consacré à Dieu, il ne devait pas toucher les cadavres, mais en tout cas, il transgresse la loi de Dieu en mangeant quelque chose d'impur. Samson suit donc ses penchants. Il pense que c'est comme ça qu'il choisira ce qu'il y a de mieux pour lui. Et c'est une idée qui est très répandue dans notre société. Combien de fois on n'entend pas quelque chose comme ça ? Si ça te semble bon, fais-le. Toi seul sais ce qui est bon pour toi, alors fais-toi plaisir. Dans notre culture individualiste qui absolutise la liberté, l'évaluation de ce qui est bon est centrée sur l'individu. Le critère de choix, eh bien, c'est les préférences individuelles. L'individu seul sait mieux que personne ce qui est bon pour lui. Et en plus, il est libre, alors ça lui devient très difficile d'écouter une autorité extérieure. La Bible préconise une sagesse tout autre, une sagesse beaucoup plus sage. La Bible nous dit que l'homme livré à lui-même, la personne qui suit les désirs de ses yeux, les penchants de son cœur, ne fait pas les bons choix. Elle ne choisit pas ce qui est véritablement bon et elle ne finit pas au bon endroit. C'est auprès de Dieu, dans l'obéissance à ses valeurs, à ses principes, et non loin de lui qu'on trouve ce qui est bon. Dieu est notre Créateur. Il sait mieux que personne ce qui est bon pour nous. Alors la première constatation de ce récit, c'est que Samson suit ses penchants, mais qu'il ne fait pas les bons choix. Et le deuxième constat qu'on peut faire, c'est que Samson s'engage sur une voie dangereuse. Mais est-ce qu'il reste maître de la situation ? Si on lit le récit de Samson, donc du chapitre 13 au chapitre 16 du livre des Juges, on voit que ce récit est bâti autour de trois rencontres, plus un prologue, plus un épilogue. Mais trois rencontres avec trois femmes, c'est ce que le narrateur biblique a choisi de rapporter des 20 ans de service de Samson en Israël. C'est étrange, vous ne trouvez pas ? Trois rencontres, donc. La première rencontre, c'est avec cette femme, cette Philistine anonyme de Timna. Samson passe outre l'interdiction mosaïque de mariage avec les Cananéens, il passe outre les réticences de ses parents, et il prépare son mariage avec cette femme. Au banquet de noces, Samson propose une énigme aux jeunes gens qui l'accompagnent. Ce sont 30 Philistins, sans doute chargés de surveiller ce dangereux étranger de mari. Et les Philistins vont menacer la mariée qui va poursuivre Samson de ses pleurs jusqu'à ce qu'il lui révèle la solution de l'énigme. Ce que Samson fait, et il finit par perdre son pari avec ces jeunes Philistins, il doit leur procurer de coûteux habits en gage. Alors il quitte la noce, ce qui à l'époque durait plusieurs jours, il quitte la noce, il va dans une ville plus loin, il va tuer des Philistins, il prend leurs vêtements et comme ça il peut s'acquitter de son gage. Et puis quand il veut récupérer sa femme, eh bien, il apprend qu'elle était mariée à un autre. Il se met en colère, il met le feu aux champs de blé des Philistins. Ceux-ci se vengent en mettant à mort la femme de Philistine et son père. Là-dessus, Samson se venge à son tour. Il tue encore plus de Philistins. Après quelques bagarres, il a horriblement soif, nous dit le texte, et il demande à Dieu à boire. Bref, un premier épisode assez déroutant. On y voit un héros impulsif, qui se met volontairement dans une situation inextricable à vue humaine. Il s'unit à une femme du peuple ennemi. Il est entouré à son propre mariage, non de ses amis, mais encore d'ennemis sans pitié. Il veut briller par son esprit en proposant une énigme, mais il est incapable de résister aux jérémiades de sa femme plus que quelques jours. Samson déclenche un engrenage de violence dont sa femme fera les frais. Si lui-même s'en sort, ce n'est pas grâce à lui, c'est grâce à l'Esprit de l'Éternel qui lui donne la force de vaincre les Philistins. Alors ça donne lieu à la première prière de Samson qui est rapportée dans le récit. Et en gros, Samson prie comme ça. « J'ai soif, Éternel, tu m'as délivré des Philistins, mais tu vas me laisser mourir de soif maintenant. » En gros, c'est une prière qui laisse à désirer. Mais Dieu y répond de manière extraordinaire, comme pour encourager Samson à prier plus souvent. Dieu répond et il fend le rocher, l'eau sort et Samson peut se désaltérer. Alors Samson s'en sort bien, n'est-ce pas ? Et on pourrait être tenté de dire, ce mariage, c'était qu'une erreur de jeunesse après tout. Dieu continue à soutenir Samson, il a une seconde chance. Alors maintenant, est-ce qu'il va prendre le droit chemin ? Mais il y a cette deuxième rencontre. Le récit enchaîne immédiatement au début du chapitre 16. Ainsi, Samson descendit à Gaza, il y vit une prostituée et entra chez elle. À nouveau, il descend et il voit et il agit en conséquence. Cet épisode est court. Après sa visite à la prostituée, Samson échappe aux Philistins et en sortant, il démolit la porte qui servait à protéger la ville. Encore une fois, il s'en sort bien. Alors à nouveau, on pourrait penser, après tout, ce n'était qu'une aventure sans conséquences. Allez, on efface tout et puis on repart sur de bonnes bases. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Samson fait une troisième rencontre. Et cette fois-ci, le texte ne nous dit pas qu'il descendit et qu'il vit, mais le texte nous dit au chapitre 16, verset 4, qu'il tomba amoureux d'une femme nommée Dalila, une Philistine. Ça devient sérieux. Et puis, ce sont les princes des Philistins eux-mêmes qui viennent acheter Dalila à un prix extravagant pour qu'elle extorque à Samson le secret de sa force. Ça devient très sérieux. Dalila harcèle Samson pour qu'il lui révèle son secret. Et Samson cède peu à peu en donnant petit à petit des indices à Dalila. Vous connaissez l'histoire, il commence par lui parler de le lier avec 7 cordes, 7 comme le nombre de ses tresses. Et puis il dit à Dalila de tisser ses cheveux dans le métier à tisser, alors il perdra sa force. Et vous voyez qu'il se rapproche de la vérité petit à petit. Et finalement, il va révéler tout son secret. Alors je vous propose de lire ce passage dans Juges 16. On va lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 21. Donc Juges 16, verset 16. Tous les jours, Dalila le harcelait par ses paroles et le poussait à bout par ses instances. Excédé à en mourir, Samson finit par lui révéler son secret. Jamais encore, lui dit-il, mes cheveux et ma barbe n'ont été coupés, car j'ai été consacré à Dieu dès le sein maternel. Et si l'on me rasait la tête, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais comme n'importe quel autre homme. Dalila comprit qu'il lui avait révélé son secret. Elle fit prévenir les princes des Philistins en leur disant, venez, car cette fois, il m'a dit son secret. Ils se rendirent donc chez elle avec l'argent promis. Elle endormit Samson sur ses genoux, puis appela un homme pour lui couper les 7 tresses de sa tête. Alors, elle commença à le maîtriser, car il perdit sa force. Puis elle cria, « Samson, les Philistins t'attaquent !» Il se réveilla de son sommeil et se dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. » Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était détourné de lui. Les Philistins se saisirent de lui et lui crevèrent les yeux, puis ils l'emmenèrent à Gaza, le ligotèrent avec une double chaîne de bronze et lui firent tourner la meule à grain dans la prison. Samson n'a pas appris de son expérience avec sa première femme et il cède au travail de sape de Dalila. Samson ne s'embarque pas résolument à trahir son secret, mais il glisse peu à peu dans une voie dangereuse. En fait, ce processus n'a pas commencé avec Dalila. Samson s'y est engagé dès le début. Son erreur de jeunesse avec la femme philistine, son aventure d'un soir avec la prostituée à Gaza, tout cela, ça a contribué en fait à le mettre sur cette voie dangereuse, à le faire glisser loin de Dieu. Toutes ces choses ne sont pas insignifiantes, elles ne restent pas sans conséquences, elles participent à la descente spirituelle de Samson jusqu'à sa chute sans retour. À aucun moment, Samson ne se ressaisit, ne repart sur de bonnes bases. Au contraire, il semble avoir plus d'assurance avec Dalila parce qu'il s'en est sorti à bon compte les fois précédentes. Au lieu de voir ses mésaventures comme des avertissements et donc des incitations à changer, Samson persiste et signe. On a ici une illustration d'un effet du péché. Cet effet, c'est l'aveuglement. Plus on s'engage dans la voie du péché, moins on est lucide, moins on est capable de s'arrêter et de repartir sur de bonnes bases. On contrôle de moins en moins la situation. On peut penser, bon, je vais jusque-là et puis je m'arrête, hein. Mais en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça, car on perd ses repères. Et en plus, on a tendance à surestimer ses forces, comme Samson qui dit, je m'en sortirai comme les fois précédentes, alors qu'en fait, on se retrouve entraîné par d'autres forces. Et le fait que ça se passe dans le domaine amoureux pour Samson n'est pas un hasard. C'est tout particulièrement difficile de tenir le cap avec le Seigneur quand on lie intimement son cœur à quelqu'un qui n'appartient pas au Seigneur. Samson suit les désirs de ses yeux, mais il ne voit pas clair. Il veut jouer avec les limites, mais il a perdu les limites de vue. Alors, sur une note plus positive, le récit montre aussi la patience incroyable de Dieu à l'égard de Samson. Dieu ne rejette pas son serviteur au moindre faux pas. Au contraire, Dieu s'accroche à Samson pour que Samson le serve. Dieu lui donne chance après chance. Il lui prodigue encouragement et avertissement. L'Esprit de Dieu continue à fondre sur Samson. Chaque délivrance accordée à Samson pouvait être l'occasion de son retour à l'Éternel. Il y a là de fortes raisons d'être rassurés pour tous ceux qui veulent servir le Seigneur, mais qui sont découragés par leurs propres péchés, ses mauvaises habitudes, ses faiblesses, ses penchants qui s'accrochent à nous et puis qui viennent en quelque sorte gâcher notre consécration à Dieu. Dieu ne nous rejette pas au moindre faux pas. Dieu est patient. Il est fidèle à l'appel qu'il nous a adressé. Dieu nous encourage, il nous avertit, il nous discipline et il nous corrige même. Mais ce n'est pas pour nous mettre de côté, c'est pour que nous le servions, pour que nous soyons ses serviteurs. Alors oui, il nous faut résister au péché, mais que nos faiblesses ne deviennent pas le centre de notre attention, que nous nous occupions plutôt de servir Dieu. Mais Samson ne voit pas Dieu comme ça, et il va suivre son propre chemin jusqu'au bout. Alors pourquoi, on a envie de se demander, pourquoi? Et on touche probablement au cœur du problème de Samson. Et c'est le troisième constat de ce récit. Samson s'affranchit de son maître divin. Mais est-ce qu'il devient libre? Le cœur du problème, en effet, c'est le cœur de Samson. Samson n'avait pas à cœur de servir Dieu et il a méprisé sa consécration. Samson tout d'abord a méprisé sa mission. À chaque fois qu'il se bat contre les Philistins, c'est pour des raisons de vendetta personnelle. À aucun moment il ne semble se préoccuper de sa mission de libérateur d'Israël. Et puis et surtout, Samson méprise les signes de sa consécration. D'une manière générale, Samson transgresse plusieurs fois la loi de Moïse, mais en plus, il ne fait aucun cas des signes particuliers qui signifiaient qu'il avait été consacré à Dieu. On le retrouve dès le début à un banquet. Littéralement, en hébreu, c'est une occasion où l'on boit. Pour un nazir qui ne devait pas toucher d'alcool, c'est quand même un peu difficile. Mais c'est surtout avec ses cheveux qu'on voit combien Samson a perdu le sens de sa consécration. Samson semble croire que sa force réside dans ses cheveux, comme dans une sorte de talisman magique. Mais en fait, ses cheveux sont le signe de sa consécration à Dieu. C'est le dernier signe qui lui reste. Mais quand ce signe lui est enlevé, Samson est libéré de toute obligation. Il n'est plus au service de Dieu et Dieu se retire de lui. Livré à lui-même, Samson ne résiste pas longtemps. Samson a méprisé son appel au service de Dieu. Alors oui, il y avait des contraintes à servir Dieu. Mais est-ce que c'était si difficile? Est-ce que c'était si dur à supporter? Samson a choisi de s'en affranchir pour n'en faire qu'à sa tête. Mais est-ce qu'il devient libre? Non, le voilà qui se retrouve esclave, non plus serviteur du Dieu vivant, mais esclave, esclave d'une idole. Samson a les yeux crevés et il est mis en prison. Et il doit faire le travail d'un âne, c'est-à-dire moudre le blé de Dagon. Dagon, c'était la divinité principale des Philistins et c'était le dieu du blé. Samson avait brûlé des champs de blé alors qu'il était encore au service de Dieu. On pouvait y voir un symbole de la victoire sur Dagon. Mais à présent, Samson, qui voulait s'affranchir de son maître divin, se retrouve au service d'un autre maître, un maître cruel, sans commune mesure avec le dieu vivant. Oui, Samson découvre qu'il doit servir quelqu'un. Il découvre que son premier maître était infiniment meilleur que celui qu'il se trouve condamné à servir maintenant. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que servir Dieu, c'est perdre son temps, c'est sacrifier sa vie. Ils pensent, comme Samson, qu'en suivant leurs propres penchants, ils feront les bons choix pour eux-mêmes. Ils pensent, comme Samson, qu'ils peuvent s'engager sur des voies dangereuses et flirter avec les limites. Ils restent maîtres de la situation. Ils pensent comme Samson qu'en s'affranchissant de Dieu, ils deviennent libres. Mais ce ne sont que des illusions. Derrière, il y a toujours un esclavage plus ou moins déguisées, des contraintes, des influences, des pressions, des addictions parfois. Et il n'y a pas de repos. On peut choisir son maître, mais on ne peut pas choisir si oui ou non on aura un maître. On en aura toujours un. La question se pose alors, lequel ? Quel sera notre maître ? Samson a goûté à l'esclavage amer de Dagon. Et finalement, il demande à Dieu de le reprendre à son service. On est à la toute fin du récit de Samson. À ce moment-là, il est dans le temple de Dagon. Il est forcé de faire le pitre pour égayer les Philistins. Je vous propose de lire donc ces derniers versets de l'histoire de Samson, au chapitre 16, des versets 27 à 31. Juges 16, verset 27. Or, le bâtiment, donc le temple de Dagon, était rempli d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins s'y trouvaient. Et sur la terrasse, il y avait 3000 personnes environ, hommes et femmes, qui regardaient Samson les amuser. Samson pria l'Éternel et dit, « Seigneur Éternel, je te prie, interviens en ma faveur. Rends-moi ma force une dernière fois, ô Dieu, pour que je me venge encore une fois, en une fois des Philistins pour la perte de mes deux yeux. » Il toucha les deux colonnes centrales qui soutenaient l'édifice et s'arc-bouta contre elles, de la main droite contre l'une et de la main gauche contre l'autre. Puis il dit « Que je meure avec les Philistins ». Puis il poussa de toutes ses forces et le bâtiment s'écroula sur les princes et sur toute la foule qui s'y trouvait. Ainsi il fit périr plus de monde par sa mort que par son vivant. Ses frères et tous les saints, les siens, descendirent, dirent pour emporter son corps et pour l'ensevelir entre Tsoréa et Eshtaol dans le tombeau de Manoah son père. Il avait été chef en Israël pendant 20 ans. Samson prie pour une deuxième et dernière fois dans tout le récit. D'un côté, il est toujours fidèle à lui-même, il veut toujours se venger personnellement pour la perte de ses deux yeux. Mais le ton de sa prière est profondément sincère et humble. Il implore Dieu de lui rendre sa force une dernière fois. Et Dieu le reprend à son service comme libérateur d'Israël et combattant contre les Philistins. Dieu exauce encore une fois sa prière. Cette fois-ci, la conséquence n'est pas la survie de Samson, mais sa mort. C'est une fin qui laisse un drôle de goût. D'un côté, il y a l'amertume de voir comment Samson a méprisé sa consécration, comment il a gâché ses dons et comment il a dû faire face aux conséquences terribles de ses mauvais choix. De l'autre côté, il y a le soulagement de voir que Samson a eu ce sursaut final, qu'il s'est ressaisi, qu'il s'est tourné vers Dieu, et surtout de voir la grâce rédemptrice de Dieu encore et toujours à l'œuvre, même dans les situations les plus désespérées. On va devoir servir quelqu'un. Alors ce sera qui ? Nous avons l'immense privilège de connaître le Dieu vivant et d'avoir été appelés à son service. C'est le seul maître qui soit digne de notre service, le seul qui soit plein de bonté, plein de patience, de générosité. Et ce maître nous invite. Il dit ceci, « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vous-même. » Oui, mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. Alors, servons Jésus, servons notre Maître et Seigneur de tout notre cœur. Acceptons son autorité et nous trouverons du repos. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, tu nous as fait la grâce de nous appeler à ton service. Mais Seigneur, tu sais combien nos cœurs peuvent être rebelles, combien le péché peut, comme pour Samson, instiller d'autres préoccupations, d'autres loyautés, des choses qui viennent nous éloigner progressivement de toi. Seigneur, nous reconnaissons que toi seul es digne d'être notre maître et que c'est auprès de toi seul que nous pouvons trouver le repos. Alors dans ta grâce, enseigne-nous, forme-nous, reprends-nous là où nous en avons besoin pour que nous soyons des serviteurs fidèles. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Et je crois que nous allons enchaîner avec un chant « Oui, tu es digne, il est digne d'être notre maître ».